France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Pilleurs de pyramides. Ce tombeau sera votre magot. Dès l'Antiquité, les illustres tombeaux de l'Égypte sont pillés dans un but d'enrichissement illicite, évidemment, mais pas seulement. Nombreux convoitent ces fabuleux trésors. Une profanation historique en écho aux aventures d'Astérix et Obélix chez Cléopâtre. Vous ne sortirez jamais d'ici, étranger. Ce tombeau sera votre tombeau.
Recueillez-vous un instant et écoutez-les.
Le cours de l'histoire.
Écoutez la voix d'Osiris, le juge de tous les morts.
L'entrée est par ici, monseigneur. Et là, c'est le labyrinthe qui mène au secret.
Ce tombeau sera votre tombeau.
Aucune issue, on est coincé.
La mort frappera sans retard ceux qui oseront troubler le sommeil éternel du pharaon.
Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, c'est bien trouvé ça.
Les dieux de l'Égypte ont parlé.
Et c'est vous qui allez désormais parler. Marc Gabold, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, professeur d'égyptologie à l'université Paul Verlier Montpellier et spécialiste de cette histoire qui nous fascine par les tombes. Il faut rappeler hein, combien notre connaissance de l'Égypte passe beaucoup par le matériel funéraire.
Il se trouve que pour les Égyptiens, la vie dans l'au-delà est au moins aussi importante, sinon, si ce n'est plus que la vie ici-bas. Donc ils s'y préparent et ils préparent pour cela tout un matériel, hein, ce qu'on appelle l'équipement funéraire, avec des textes religieux, des objets qui sont prescrits en général par les livres funéraires et qui sont déposés dans les tombes. Ce qui fait qu'on a effectivement dans les tombes du mobilier plus ou moins riche selon l'origine sociale des individus. Il est évident qu'un pharaon va avoir des biens plus précieux dans sa tombe qu'un fellah ou un ouvrier.
Et bien souvent, quand on nous présente ces tombeaux égyptiens, l'idée qu'il y a déjà de la sécurité autour du tombeau paraît comme une évidence. C'est pensé ainsi ?
Oui. D'abord, on essaye de dissimuler les entrées des tombes et quand il y a eu des pillages, on le voit parce qu'on a refermé les tombes et on a recomblé les escaliers. Et puis, il y a un petit peu, c'est un petit peu un paradoxe, je dirais, dans la logique générale d'Homo sapiens. On passe beaucoup de temps, on met beaucoup d'efforts pour retirer l'or de la terre et une bonne partie de cet or retourne dans la terre où il est thésaurisé et de nouveau inaccessible.
Vous êtes spécialiste, vous, Marc Gabold, de la 18e dynastie. Alors, c'est ça aussi qu'il faut peut-être préciser. Voilà. Hein, quand nous parlons de période sur l'Égypte, c'est du temps très très long.
La 18e dynastie, c'est entre 1650 avant notre ère et 1250 à peu près. Et ce sont de grands pharaons, les Toutmosis, les Amenophis, avec la 18e dynastie, Akhenaton, Néfertiti, Toutankhamon, en plein milieu. Donc c'est vraiment une période fastueuse pour l'histoire de l'Égypte.
C'est-à-dire que, en prenant cette chronologie-là, les pyramides sont déjà de vieilles choses.
Les pyramides sont de vieilles choses. Elles ont déjà été pillées, d'ailleurs. Hein, les grandes pyramides, on le sait, et parce qu'on a des témoignages qui sont un petit peu plus tardifs, qui renseignent sur les réinhumations qui ont été faites des rois. Et puis, les pyramides de la 5e dynastie, là, on a des traces dans les pyramides elles-mêmes, des boyaux qui ont été creusés pour vider le tombeau. Au Moyen-Empire, on a même un phénomène très curieux. Les tombes royales qui se trouvaient à El Licht et El Laoun ont été pillées et une partie du mobilier s'est retrouvée à Byblos, dans les tombes des gouverneurs locaux, contemporains de la 13e et 14e dynastie. Et ils ont récupéré de magnifiques pièces qui viennent en fait des tombeaux royaux de la 12e dynastie et qui se sont retrouvées suite à l'effondrement du Moyen-Empire sur un marché, je dirais, international et récupérées par des roitelets biblites.
Byblos, c'est du côté du Liban actuel, c'est
ça ? Tout à fait. tout à fait. Et on a retrouvé dans les tombes de ces rois locaux qui écrivent leur nom en hiéroglyphe, mais qui s'appellent Abishemu, Yepashemu Abi, donc des noms parfaitement sémitiques, des pièces, un magnifique vase au nom d'Amenemhat III, un coffret au nom d'Amenemhat IV, et c'est tellement beau que ça ne peut venir que d'un endroit, c'est les tombes royales de cette époque.
Sur ce temps très long de l'histoire de l'Égypte antique, il y a une évolution des tombeaux, parce que nous venons de citer les pyramides, hein, en rappelant qu'elles sont quand même très 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 vieilles et que ce sont déjà des ruines pour bien des pharaons. Les tombeaux prennent des formes différentes.
Voilà, à partir de la 18e dynastie, on va enterrer les rois, essentiellement, dans des petits vallons désertiques, au départ très isolés les uns des autres, hein, et puis peu à peu ils vont se concentrer, ça va être la vallée des rois. Mais là, il y a un an et demi, il y a deux ans même, un Britannique et une équipe égyptienne ont trouvé l'un des plus anciens tombeaux de cette époque, la tombe de Toutmosis II, et qui était dans un wadi complètement, c'est-à-dire une vallée désertique complètement isolée à l'ouest de la vallée des rois. Donc au départ, visiblement, le souhait, c'est de mettre des tombes dans des endroits reculés, cachés et masqués.
Eh oui, parce que déjà, éloigner la tombe, c'est se préserver des pilleurs. Même si éloigner la tombe, ça permet aux pilleurs d'être assez tranquilles, parce que personne n'est là pour les surveiller.
Alors, il y a un système de surveillance. On a des biographies de policiers, hein, et qui sont, on les appelle les medjay, et qui on a même un petit peu leur itinéraire. On sait qu'ils vont de la tombe de Abaou à la tombe de Tembi, et ce sont des lieux qui sont dans la nécropole thébaine, très éloignés les uns des autres, et ils font des inspections régulières. Et jusqu'à la fin de l'histoire de la vallée des rois, à la 20e dynastie, on a un scribe de la tombe qui régulièrement va faire le tour de la nécropole. Alors à la fin, on ne sait pas si c'est vraiment pour s'assurer que les tombes sont encore intactes ou pour faire des repérages pour peut-être aller les piller ultérieurement. Hein. C'est un petit peu vers la 20e dynastie, l'appât du gain touche même visiblement les fonctionnaires de la tombe et les prêtres d'Amon.
C'est tout l'enjeu, en fait, de cette émission consacrée au pillage des pyramides, pillage quand l'art est dérobé, et particulièrement dans ces tombeaux égyptiens, parce qu'il y a la réflexion évidente de se dire bah, on pille pour avoir des trésors, de l'argent, mais on sent déjà qu'il n'y a pas que cette raison-là. Voyage en Égypte.
À 750 km du Caire, en remontant la vallée du Nil, on peut prendre le train à la gare Ramsès au Caire. En une nuit de voyage, on arrive à Louxor. À 6 km de Louxor, toujours au bord du Nil, il y a Karnak, un temple gigantesque, foisonnant comme une ville rêvée. De Louxor à Karnak, on peut y aller en calèche ou en vélo, par la route du bord du Nil. Il y a des jardins, il y a de petites maisons de ci, de là. Autrefois, il y a 3000 ans, Louxor et Karnak faisaient partie d'une seule et même ville, Thèbes. Thèbes aux 100 portes, comme l'appelaient les voyageurs grecs, qui n'avaient jamais rien vu chez eux d'aussi prodigieux. Aujourd'hui, de Louxor, si on prend le bac pour traverser le Nil, on peut louer un vélo ou un âne. Il n'en faut pas plus pour gagner la vallée des rois. Un ou deux villages, quelques coopératives agricoles, quelques champs de plus en plus maigres à mesure qu'on avance, et droit devant, Sous le ciel d'un bleu intense, des montagnes ocre, déchirées, pas un poil d'herbe, le ciel, la poussière, le soleil, le silence aussi. La vallée des rois.
Henri Gougaud, écrivain, conteur qui œuvrait sur France Inter, nous étions en 1979. Marc Gabold, les pyramides, nous les visualisons et tous ces mystères autour des pyramides, nous les connaissons avec ces couloirs secrets, ces chambres dissimulées. La vallée des rois, bien sûr, nous imaginons une série de tombeaux. À quoi ressemble la vallée des rois ?
Ce sont des vallons désertiques et au départ, les pharaons vont se mettre plutôt au fond des petits vallons, des petites ramifications. Hatshepsut fait creuser sa tombe juste au pied de la falaise. Toutmosis III, c'est carrément dans la falaise. Et puis, peu à peu, c'est le centre de la vallée qui va être occupé. Et à la 20e dynastie, tous les tombeaux sont regroupés vers le centre de la vallée. Mais on a quelques petits tombeaux à droite et à gauche, dans la vallée de l'Ouest, à Amenhotep III, qui a été redécouvert par l'expédition d'Égypte, d'ailleurs. Puis on a récemment découvert d'autres tombes royales dans les vallons au sud-ouest de Karnak.
Oui, parce que c'est ce que je voulais vous demander d'ailleurs. C'est nécropole royale, nécropole du côté du Caire, bien sûr, avec les pyramides, la vallée des rois, c'est encore autre chose. Et il est possible d'avoir ici une chronologie des nécropoles royales ?
Oui, pour l'Ancien Empire, c'est essentiellement le plateau de Gizeh, et à la fin de l'Ancien Empire, Saqqara. Au Moyen Empire, c'est plutôt El Laoun, El Licht, vers le Fayoum, vers le lac du Fayoum, l'entrée du lac du Fayoum. Les 18e, 19e et 20e dynasties, c'est la vallée des rois. Et puis ensuite, c'est la nécropole de Tanis, découverte par Pierre Montet. Et puis, on sait qu'il y a eu des nécropoles royales à Saïs, à l'époque des rois saïtes, probablement vers Berbet et Lagar pour les dernières dynasties indigènes. Et ensuite, les rois ptolémaïques vont se faire enterrer, a priori, Alexandrie. Mais bon, on a beaucoup de difficultés à essayer de reconstituer, je dirais, la topographie de la ville d'Alexandrie et, bien entendu, où étaient enterrés les Ptolémées et Alexandre le Grand, qui devait traîner par là.
Oui, parce que c'est ce grand mystère où se trouve le tombeau d'Alexandre le Grand. Marc Gabold, la construction d'un tombeau se conçoit comme la construction d'un bâtiment, au sens où il y a des pièces, il y a des couloirs. Ce n'est pas juste une pierre posée sur un trou dans lequel on aurait placé le pharaon.
Comme la dépouille du roi doit être entourée d'un mobilier et qui doit essentiellement favoriser son voyage dans l'au-delà, donc il y a plusieurs pièces en règle générale, et on sait que c'était creusé avec une grande discrétion. Hein. On a un certain Ineni qui nous dit qu'il a creusé la tombe du roi Toutmosis Ier sans être vu ni être entendu. Donc le secret était quand même relativement bien gardé. Et en règle générale, les tombes royales se présentent comme un escalier, plusieurs couloirs descendants, très souvent un puits qui barre le passage, et puis au-delà, une succession de pièces, une pièce à deux piliers, changement d'axe, et à la fin, chambre funéraire, souvent à plusieurs piliers, avec des chambres annexes où on va mettre le coffre à canopes, le mobilier, les lits funéraires, etc. Et tout cela est représenté en partie à partir de l'époque ramesside sur les tombeaux. Et la chance que l'on a, c'est que ce mobilier funéraire qui était représenté dans certaines tombes, eh bien on l'a retrouvé avec la tombe de Toutankhamon. Les lits funéraires, chez Toutankhamon, on a les vrais, on n'a pas simplement les représentations. Les statues funéraires, on les a, elles étaient décrites sur les parois des tombes ramessides, mais quand on a trouvé la tombe de Toutankhamon, on a eu ces monuments eux-mêmes découverts et fouillés.
Avec une émotion évidente au moment de découvrir une tombe considérée comme intacte, peut-être déplacée, mais qu'est-ce que cette tombe ? Guillemette Andrelanoé, égyptologue.
Maintenant qu'elle est vidée de son contenu, elle est plutôt décevante et pas très intéressante par rapport aux merveilles qui l'entourent. C'est-à-dire que la tombe de Ramsès VI ou d'Amenophis II ou Toutmosis III, toutes ces tombes-là sont mille fois plus belles et mille fois plus intéressantes. Cela dit, il demeure qu'on est toujours un peu ému quand on pénètre dans la tombe de Toutankhamon parce qu'elle avait ce matériel absolument intact. C'est-à-dire que la tombe avait déjà été pillée dans l'Antiquité, mais elle avait été pillée de façon très brève, car il semble que les voleurs ont été surpris très tôt dans leur entreprise et qu'ils n'ont pas pu achever de la piller. Donc, les prêtres ou les policiers qui, à l'époque, ont pris sur le fait ces voleurs, ont pu restaurer l'ordre dans lequel était installé le mobilier et reposer des scellés sur la porte.
Voilà, donc ici, il y a déjà pillage dans l'Antiquité. La police que vous évoquiez, hein, Mac Gabold, et l'émotion. Alors, oui, bien sûr, il n'y a plus le matériel. Maintenant, le matériel est dans les musées. Enfin, l'émotion est là quand même.
Oui, oui, oui. Quand on rentre dans la tombe de Toutankhamon, on est pris par l'émotion, puis on se replonge à l'époque de 1922 quand elle a été découverte. Et puis c'est quand même une tombe intéressante, les peintures. On a par exemple le successeur de Toutankhamon qui fait le rituel de l'ouverture de la bouche sur la momie de Toutankhamon. Ça, c'est rarissime. Donc on a, même si elles sont si le décor est beaucoup plus limité que dans les autres tombes, ce qui reste est quand même très intéressant.
Une tombe découverte en 1922, très bien, considérée comme une tombe qui n'a pas encore été pillée. C'est un peu dans cette lecture-là que la tombe de Toutankhamon a été présentée, sachant que d'autres tombes sont connues depuis longtemps. Et dès lors, c'est complètement vide, ou alors on trouve des artefacts, des petites choses comme ça qui restent ?
Dans la plupart des tombes de la Vallée des Rois, on a quand même retrouvé des restes du mobilier funéraire. Par exemple, les grands lits avec tête d'hippopotame et de vache, on a trouvé des fragments chez le roi Amenhotep II, chez le roi Horemheb, etc. Mais il a fallu attendre la découverte de la tombe de Toutankhamon pour que l'on voit les objets tels qu'ils étaient à l'origine, avec tous leurs ors.
Et oui, parce que cette description-là est difficile à mettre en place sans avoir quelque chose de factuel. C'est pas parce que l'objet a été déplacé. Vous citiez les vases canopes, hein, ce sont ces petits vases dans lesquels on mettait les viscères, c'est ça ?
Les viscères, voilà.
Ah oui, si le vase est tout seul dans un musée, on comprend pas sa situation, voilà, sur le lieu.
C'est toujours le problème avec les objets archéologiques sans provenance déterminée. On a, par exemple, des vases canopes du roi Smendès. On subodore qu'il a été enterré à Tanis. Pour l'instant, on n'a aucune preuve. Voilà, c'est ça le côté embarrassant. Pour les pillages de la tombe de Toutankhamon, moi j'ai vu les clichés qui sont à Oxford, au Griffith Institute. On voit très 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 bien, sur la seule photo d'ailleurs prise par Carter de l'entrée de la tombe, on voit très 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 bien les deux entrées antiques qui ont été faites. Et c'est sûr que les voleurs ont été interrompus, et qu'est-ce qu'ils allaient chercher, on ne sait pas trop. Une chose bizarre, c'est que par exemple, toutes les pointes de flèches ont disparu en bronze. Pratiquement toutes ont disparu. Et si c'était des ouvriers qui avaient participé au creusement des tombes, eh bien le bronze, je dirais, avait presque une valeur supérieure à l'or, parce que il était facile à monnayer, alors que l'or, ça éveillait les soupçons. Et puis il semble qu'ils aient récupéré, alors on dit que c'était des onguents, mais il se pourrait que certains vases de la tombe de Toutankhamon, notamment ceux en calcite, ce qu'on appelle de l'albâtre à tort, aient été remplis avec peut-être de l'opium. Et récemment, une étude à Yale a montré qu'il y avait des vases à opium, beaucoup plus tardifs, ils datent de l'époque de Xerxès, mais on a le même genre de vase dans la tombe de Toutankhamon, et peut-être que l'un des motifs pour récupérer et aller piller la tombe royale, c'était pas forcément l'or, difficile à monnayer, mais plutôt des choses comme le bronze et l'opium.
Voilà.
S'il y en avait eu, hein.
Des drogués.
Ça demande à être vérifié.
Et ici, nous avons la datation de la tombe elle-même, qui là est possible parce que les Égyptiens de l'Antiquité nous ont offert tellement et tellement d'indices, de textes, d'éléments. Le pillage lui-même doit être beaucoup plus difficile à dater.
Ah, on pense que c'est quelques années après la tombe, mais effectivement, après la clôture de la tombe. Mais on a des indices, par exemple, la tombe de Toutmosis IV, on sait qu'elle a été restaurée en l'an 8 du roi Horemheb, c'est-à-dire à peu près 70 ans après sa fermeture. Et là, on a un très gros graffito du responsable de la nécropole, qui s'appelle Monsieur Maya, et qui est probablement celui qui a enterré Toutankhamon, hein, d'ailleurs. Eh bien, il a laissé un très long graffito en disant qu'il a restauré la demeure d'éternité du roi Toutmosis IV. Donc, on a des indices, déjà à cette époque, de restauration. En fait, il va falloir attendre la 20e dynastie pour que là, on ait des documents très précieux. C'est les minutes des procès des pillards des tombes royales. Et là, effectivement, on va avoir énormément d'indications sur le processus de pillage, la manière d'écouler plus ou moins facilement le butin, et puis les châtiments. On n'est pas très précis sur les châtiments, mais on suppose qu'un certain nombre ont été exécutés.
Oui, parce qu'on n'imagine pas beaucoup d'indulgence ici, après le procès, dont nous avons pu conserver les actes. Nous nous trouvons sur Ramsès IX. Ramsès IX, c'est 1125-1106 avant Jésus-Christ, et je peux vous garantir que j'ai pris ça en note, parce que les dynasties de l'Égypte antique sont dures à cerner. Mais c'est intéressant de voir qu'ici, nous avons conservé la confession du chef de bande.
Nous avons pris nos barres à mine de cuivre et creusé un tunnel au-dessus de son caveau. Nous avons pris des torches et sommes descendus. Nous avons forcé un passage à travers les déblais à l'entrée de son appartement funéraire et avons découvert ce dieu allongé au fond. Nous avons trouvé le caveau de l'épouse royale Nebukaas dans une chambre latérale fermée par du plâtre. Nous avons ouvert leur sarcophage extérieur et intérieur et trouvé l'auguste momie de ce roi orné d'un faucon, un grand nombre d'amulettes et d'ornements en or à son cou, un masque d'or. Elle était entièrement recouverte d'or, et ses sarcophages étaient incrustés d'or et d'argent, ornés de pierres précieuses. Nous avons pris l'or que nous avons trouvé, les amulettes et ornements à son cou, et ce qui recouvrait son sarcophage. Nous avons mis le feu à leur sarcophage, et nous sommes emparés des fournitures funéraires à côté d'eux, vaisselle d'or, d'argent et de cuivre. Nous avons fait 8 parts de l'or trouvé sur les momies, 20 ébènes d'or à chacun, sans compter les pièces de l'équipement funéraire.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Raphaël Lalonde qui nous lisait ici la confession d'un chef de bande, on a même le nom de la bande, me dit-on. Amon Panéfer.
Amon Panéfer.
C'est
oui.
Ça, hein, c'est absolument sensationnel. Alors, ici, Marc Gabold, comme document.
C'est extraordinaire. Alors, est-ce que c'était vraiment un chef de bande? On s'aperçoit que, en fait, ce sont des gens qui ont un emploi, qui ont des responsabilités. Lui, il était sous la responsabilité du clergé d'Amon. Alors, il faisait pas ça pour le clergé d'Amon. Il faisait ça, je dirais, en marge. Il va avoir un batelier, ce qui va lui permettre de traverser le Nil, puisque le temple de Karnak est à l'est et la vallée des rois est à l'ouest. Et on sait exactement où il va. Il va sur un site que l'on appelle Dra Bul Nega, qui se trouve entre le temple d'Hatshepsut à Deir el-Bahari et la vallée des rois. Et là, on a une très ancienne nécropole qui date en partie de la 11e dynastie et en partie de la 17e. Et il va, à Montpanéfer, va piller la tombe du roi Sobekemsaf II et de son épouse Nubkaas. Et ça va lui rapporter, au total, on nous donne les chiffres, hein, c'est 20 d'ébène. 20 d'ébène, ça fait 1,8 kg d'or.
Donc oui, c'est quand même y a de quoi vivre,
très fait conséquent. Pour des rois qui étaient c'était pas les plus riches, hein, les rois de la 11e dynastie et de la 17e. Donc, il y avait pas mal d'or. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ces tombes ont été redécouvertes par Mariette, d'abord par les locaux et ensuite par Mariette dans les années 1850. Donc on avait en même temps les papyrus qui sont arrivés vers 1855, les tombes, les localisations des tombes, avec, on pouvait comparer. On a par exemple une description de la tombe d'un roi Antef. On dit sur la stèle de la tombe de ce roi Antef, on a le roi et son chien familier passe entre ses jambes et on a le nom du chien, Bereka. Et on l'a à la fois sur le papyrus qui parle de l'inspection des tombes et sur le monument lui-même qu'on a retrouvé de nos jours. Et ceci a été écrit à 1000 ans d'écart, c'est-à-dire que on a de l'histoire dans l'histoire. C'est extraordinaire.
C'est fabuleux, hein, Auguste Mariette, l'archéologue français qui a vraiment marqué l'histoire de l'égyptologie dans l'idée de retrouver des trésors dans ces tombes. On l'a bien dit, hein, Marc Gabold, l'histoire de l'Égypte, c'est une histoire très longue, ce sont des millénaires, donc les tombeaux ont évolué. Et d'ailleurs, ce qu'il y a à l'intérieur des tombeaux a dû évoluer. Est-ce qu'il y a, par contre, une constante de volonté de mettre un maximum de richesses? Ou est-ce qu'il y avait une période où on en met un peu moins, parce qu'il y a moins d'argent?
On n'a malheureusement pas beaucoup de moyens de comparaison, puisque grosso modo, il n'y a qu'une seule tombe qui a été trouvée à 99,9% intacte, c'est celle de Toutankhamon. Donc on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y avait dans les autres. Mais bon, on suppose que... par exemple, dans la tombe de Séti Ier, on a plusieurs sarcophages, et un dernier cercueil qui est en pierre, anthropoïde, en calcite. On n'a pas ça chez Toutankhamon. Mais à la place, on a un cercueil en or qui fait quand même 110 kilos. Voilà. Donc on peut se dire que peut-être qu'à l'époque de Toutankhamon, la quantité d'or était plus importante. Même peut-être a-t-il été enterré avec plus d'or que Ramsès II. On n'en sait rien, mais on n'a pas les comptes pour tous les rois. Malheureusement, on n'a pas un inventaire pour chaque tombe au moment où on a déposé le mobilier funéraire.
Ah oui, que contenaient ces tombes ?
Tout ce mobilier, enfin, il faut appeler ça ce mobilier, portait des inscriptions. Des inscriptions à l'encre, expliquant le coffre du linge de Sa Majesté quand elle était enfant. Par exemple, il y a toutes les indications, il ne nous manque rien. Il manque, tout de même, on s'aperçoit un certain nombre d'objets. Je crois qu'on estime qu'il manque à peu près la moitié, peut-être plus de la moitié, des bijoux qui étaient dans des coffrets. Heureusement, il est resté les fameux sarcophages intacts, et à l'intérieur, la momie était couverte, littéralement couverte de colliers, de bracelets et de bagues. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je vous dis, il y a extrait de ce petit tombeau de Toutankhamon, de ce petit roi qui a très peu, vraiment très peu régné, il y a la moitié d'un étage du musée du Caire.
Pierre Ichac, ici, en 1967, au moment de l'exposition à Toutankhamon à Paris, qui a été un succès considérable. Mais dès qu'il s'agit de Toutankhamon, c'est un succès considérable, on peut le dire. Mais il y a la fascination de l'Égypte antique avec ses fabuleux trésors. Et Marc Gabold, c'est amusant de se dire que tout cela passe par la représentation d'une seule tombe, puisque les autres sont pillés.
Oui. Ben, mais Toutankhamon est emblématique. Et il se trouve qu'en plus, le public français est très, très amateur. Bon, c'est la faute à Napoléon et à Champollion. Mais il y a un réel attrait des Français pour l'Égypte ancienne. Ça fait un peu partie de l'histoire de France, hein, l'expédition d'Égypte et le déchiffrement des hiéroglyphes. Ce qui fait qu'à la première exposition de Toutankhamon en 1967, c'était plus d'un million de visiteurs, je crois. La deuxième à la Villette, on est monté encore un petit peu plus haut. Et dans tous les cas, je crois que c'est le maximum de visiteurs donc, qui a, lors d'une exposition temporaire, ça a toujours été Toutankhamon.
Oui, c'est ça, hein, parce que il y a toutes ces expositions Toutankhamon à Paris, notamment donc en 1967 et dans les années 2000-2019, l'exposition à la Villette.
Voilà, à la Villette, qui fait partie d'une grande tournée. Hein, on va aux États-Unis, etc. C'est un très bon moyen, d'ailleurs, pour les Égyptiens, de rentabiliser le trésor en faisant voyager plusieurs pièces, en attendant le transfert depuis le vieux musée au centre-ville, vers le Grand Egyptian Museum qui se trouve près des pyramides.
Et puis ces tombeaux royaux ne contiennent pas seulement le roi, ce qu'on a pu entendre ici en archive, il peut y avoir l'association d'autres personnes autour de lui, de la famille aussi, ce qui signifie qu'il y a tant et tant de trésors. C'est un système de tombeaux avec ses chambres, et il y a des chambres qui se répartissent. Mais on sait comment on sait chez nous, hein, quand les tombeaux sont un peu trop pleins, on déplace,
oui, et c'est le cas aussi. Ça, c'est pas exactement comme ça. En fait, les caveaux sont faits pour un roi particulier, mais le roi peut enterrer dans sa tombe soit ses enfants, s'ils sont morts avant lui, soit une ou plusieurs de ses épouses. Dans la tombe de Toutankhamon, on a deux fœtus qui sont probablement les enfants de Toutankhamon, qui ont été enterrés. En revanche, on n'a pas son épouse, hein, qui lui a survécu. On ne sait pas très bien où elle a été enterrée. Et effectivement, mais c'est pas un caveau familial qui va s'étendre sur plusieurs générations. C'est un roi donné, et il se trouve que les membres de sa famille qui sont morts avant lui, certains, et pas tous, peuvent être enterrés dans sa tombe avec lui.
Et puis, une fois que le tombeau est scellé, l'idée, c'est de ne plus pouvoir y revenir.
A priori, oui.
C'est ça. Il y a des contrôles pour vérifier juste que c'est bien fermé.
Il y a des contrôles, il y a des policiers qui font des rondes. Certains vont même laisser des graffitis lors de leur tournée. Mais c'est pas suffisant pour se protéger des pillages, hein. Ça c'est évident.
Et puis alors, il y a cette question quand même, la motivation du pillage. Parce qu'une lecture simple nous fait dire qu'on pille pour s'enrichir, ce qui d'ailleurs est souvent le cas. Alors, en or, en bronze, j'ai bien entendu, en opium, ça c'est beaucoup plus voilà, étonnant. Mais
peut-être en opium.
Peut-être, voilà. Bah ouais, mais voilà, vous êtes égyptologue, donc historien, donc vous mettez de la nuance. Et puis, il y a aussi d'autres motivations. Ici, ce sont de fabuleux trésors, mais des réserves également.
Oui, on thésaurise. Hein. Et pour thésauriser, ben, l'or qu'on n'a pas, on va le prendre là où il est. Il se trouve, par exemple, qu'il est très probable qu'à la fin de la 20e dynastie, lorsque l'on a récupéré ce qui restait des momies royales et qu'on les a enterrées essentiellement dans deux cachettes, peut-être trois, puisque visiblement il nous manque un certain nombre de reines, les prêtres d'Amon et les autorités de la rive gauche de Thèbes, de l'autre côté, ont probablement récupéré ce qui restait d'or. On a le cas d'un sarcophage du reine Méritamon. On voit très 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 bien que c'était un magnifique sarcophage, qu'il était incrusté avec probablement de la pâte de verre bleue et de l'or. Et tel qu'on l'a retrouvé, la pâte de verre bleue a été remplacée par de la peinture et l'or par de la peinture jaune. Donc on voit que la pieuse attitude qui consiste à réunir les ancêtres, on peut l'utiliser pour récupérer un petit peu d'or. À la fin de la 20e dynastie, il y a une crise monétaire importante. L'or de la Nubie n'est plus tellement accessible. Les Égyptiens envoient une petite expédition dans une petite vallée entre le Nil et la mer Rouge pour récupérer de l'or. Et en 3 mois, ils récupèrent 90 grammes. Donc c'est ridicule. Donc il y a une pénurie de métal et on va chercher le métal, mais pour manger hein, aussi. Hein. On a des témoignages de l'époque de Ramsès XI où une femme dit carrément « j'ai entendu dire qu'il y avait de la nourriture, il faut aller la chercher ». Et on lui demande pourquoi son mari a fait des vols. Hein, et elle explique ben, « c'était l'année des hyènes et l'on avait faim ». L'année des hyènes. Alors, c'est une expression un petit peu bizarre. On ne sait pas si c'est l'année des hyènes parce que les hyènes circulaient jusque près des humains, ce qui arrive rarement parce qu'elles-mêmes étaient affamées, ou si c'était l'année où on mangeait des hyènes. Parce qu'on a retrouvé dans la capitale d'Amenhotep IV à Kenaton des os de hyènes avec des traces de découpe qui prouvent qu'on mangeait de la hyène et on sait dès l'Ancien Empire que les Égyptiens engraissaient des hyènes. Alors, était-ce pour chasser ou était-ce pour les manger ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, l'année des hyènes, c'est une année de pénurie. Et la faim, je dirais FAIM, justifie les moyens et le fait d'aller piller pour acheter de la nourriture avec le butin.
Oui, c'est ça. Hein. Ici, il y a cette motivation de trouver l'argent, le trésor là où il est. C'est la même chose pour les autorités au sens où, on n'arrête pas de le dire, mais ce sont des millénaires d'histoire et un tombeau qui a 1500 ans ne dit plus la même chose pour les pharaons du moment. Donc bon, s'il y a de leur apprendre.
Et puis, il y a cette idée que, de toute manière, les tombes sont pillées. Donc il vaut mieux organiser, je dirais, les réinhumations et en fin de compte, les derniers pillages, que ce soit les plus hautes autorités ou locales ou nationales, pour enrichir plutôt le trésor du roi ou des prêtres que les poches des ouvriers, des reines médinées, qui sont complices hein, de toute manière. Et on voit très 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 bien à l'époque de Ramsès XI, il y a de véritables comptes de tiers. Il y a un certain Panersi, visiblement, il fait des ponctions dans les tombes, dans les temples. On a des complicités incroyables. Le responsable de la nécropole royale, qui s'appelle Boutet-Ramon, il indique à l'un de ses supérieurs, qui s'appelle Payandre, il dit qu'il a trouvé un tombeau et il attend l'arrivée de Payandre pour pouvoir l'ouvrir. Donc c'est visiblement un repérage pour aller piller une tombe. Et on sait que ça a probablement amené à quelques meurtres. Hein. Boutet-Hamon, on a une partie de sa correspondance, et il y a une histoire un peu compliquée, un peu trouble, où deux personnages doivent être emmenés en bateau et on doit les jeter par-dessus bord. Donc, il y a probablement un caractère un petit peu mafieux à ce moment-là. Mais, malgré cela, ces Égyptiens, qui n'avaient pas tous les mains propres, ont tenu à réenterrer les rois anciens et, dans la mesure du plus possible, de leur redonner une identité. Hein. Très souvent, les noms originaux avaient disparu. Donc on a remis sur le cercueil même une inscription en disant de quel pharaon il s'agissait.
Ah, c'est fascinant ça, hein, de se dire avec tant d'écart, mais nous sommes de l'écart de l'Antiquité, il y a des mouvements comme ça, tout comme ces trésors issus de pillages qui traversent tout le territoire et qui arrivent jusqu'au Liban actuel, à Byblos. On va trouver des transferts d'un tombeau à l'autre. Est-ce qu'il y a ces éléments-là de se dire, au moment où on trouve de très beaux vases dans un tombeau ancien, on va les récupérer pour un tombeau plus récent?
Oh, ça arrive. On a par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de la découverte de la nécropole royale de Tanis, donc c'est 21e dynastie, c'est entre 1000 avant Jésus-Christ et 900 avant notre ère. Et dans la tombe du roi Psousénès, qui a été retrouvée à peu près intacte par Pierre Montet, où il y avait un très beau cercueil d'argent, un masque d'or pas mal non plus, le sarcophage de Psousénès, c'est en fait celui de Meren Ptah, l'un des quatre sarcophages de Meren Ptah qui a été pris dans la vallée des rois et emmené jusqu'à Tanis. Donc ça se faisait. On a à la 22e dynastie des rois de Thèbes, hein, des rois locaux, le roi Arsuésis, qui se fait enterrer dans un sarcophage visiblement d'une reine qui a été extraite de la vallée des reines. Donc on récupère effectivement, ça se fait, de récupérer des pièces d'anciens rois. Et je dirais que ce phénomène de recyclage touche même les pharaons eux-mêmes et les très grands personnages.
Ah oui, c'est ça. C'est pas simplement des personnages secondaires, parce que nous pensons souvent aux personnages royaux, mais il n'y a pas que cela. Tout type de tombe peut être pillé, puisque dès qu'il y a un peu d'argent, il y a quelque chose à prendre dans une tombe.
Oui, dès que l'on peut sentir qu'il y a de l'or, il y a toujours des bonnes volontés pour vous aider à l'extraire. Hein. Alors, les plus au courant, c'était en fait ceux qui travaillaient aux tombes royales, parce qu'ils connaissaient très très bien la vallée des rois. Hein. Sous Ramsès XI, on a le tombeau de Ramsès XI, qui est inachevé, qui est d'ailleurs très 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 bizarre, avec un puits très 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 mal placé.
Et il sert à quoi ce puits?
Il est à la place du sarcophage. À la place du sarcophage, dans la tombe de Ramsès XI, on a un puits. Et au fond de ce puits, on a retrouvé des restes de mobilier qui semblent indiquer qu'il a servi à un moment donné de cache, justement, lors des réanimations. Il y a certaines momies, Séti Ier, Ramsès II, etc. On connaît toutes les étapes jusqu'à leur tombeau définitif où ils ont été retrouvés en 1881. La grande époque de... Le grand moment où on va redécouvrir ces trésors qui avaient été après les pillages, c'est 1881, quand le service des antiquités, alors dirigé par Gaston Maspero, redécouvre les cachettes dans lesquelles les rois prêtres de la 21e dynastie avaient enterré les rois. Il y en a deux, celle de Deir el-Bahari, découverte probablement vers 1870 par une famille de Gournaoui, les Abd el-Rasoul, famille très célèbre jusqu'à nos jours d'ailleurs. Puis ils ont commencé à travailler avec les Occidentaux au dégagement des tombes, probablement dès Bernardino Drovetti et Belzoni dans les années 1818.
Ah oui, très tôt. Oui.
Ils ont probablement participé à la fouille de la tombe de Séti Ier vers 1818. Et ils connaissaient très bien la montagne. Et un jour, il y a une chèvre qui a disparu. Donc, Ahmed Abd el-Rasoul va dans la montagne rechercher la chèvre. Et il l'entend bêler au fond d'un puits. Et elle est tombée au fond d'un puits, près du temple de Deir el-Bahari. Donc, on est vers 1870. Et il descend avec son frère Mohamed et il découvre un long couloir près d'une centaine de mètres de long et à l'intérieur des tas de cercueils. Il voit des cartouches, donc ces ovales dans lesquels les rois égyptiens mettaient leur nom. Donc il sait que on est probablement sur des tombeaux de rois, du mobilier de rois, et il récupère très peu de matériel, quelques figurines funéraires, un papyrus, qu'il va commencer à vendre à partir de 1874. Ce qui va éveiller les soupçons du service des antiquités, créé par Auguste Mariette et dont Maspero est à ce moment-là le directeur, qui va venir à Thèbes interroger un petit peu énergiquement les Abderrasoul, et finalement, voyant que ça sent le vinaigre, les frères Abderrasoul vont vendre, n'ont pas donné, vont vendre le secret de la cachette royale aux autorités.
Avec ici cette histoire antique de pillage antique, et puis le goût de l'Égypte qui se développe assez tôt, en fait, 17e siècle, 18e siècle, et puis vous l'avez évoqué, Marc Gabold, l'expédition d'Égypte de Bonaparte à la toute fin du 18e siècle, qui alors donne une ampleur gigantesque à ce mouvement, et au 19e siècle, bien sûr, l'Égypte est très à la mode, et dès lors, il y a le marché de l'art qui lui aussi en profite.
Vous êtes bien la première femme qui vient chez moi uniquement pour discuter, vous savez.
Monsieur Brandon, je vous ai apporté quelque chose qui devrait beaucoup vous intéresser. 18e dynastie, monsieur Brandon. C'est de l'or, on a fait l'analyse.
Ça me semble venir d'une sépulture violée.
Le tombeau du pharaon qui régnait à l'époque de Joseph. La personne qui fit la plus importante trouvaille du siècle n'a rien d'un archéologue.
Un pilleur de tombe. D'où est-ce que ça sort ?
Père l'avait acheté à Londres. Et il s'aperçut que plusieurs autres objets provenant de la même tombe étaient vendus aussi sur le continent. Le directeur des antiquités croyait que vous pourriez m'aider.
Ça demandera des semaines de recherche et même des mois.
Rien ne nous y contraint. Il y a une façon plus directe de nous y prendre.
Ah oui ? J'adore aller vite en besogne.
Admettez qu'on puisse apprendre qui fait sortir ces trésors d'Égypte. Nous ferions suivre les voleurs et trouverions le tombeau.
Et de quelle façon découvrir les voleurs ? Par une annonce en bonne place ?
Je vois très bien quelqu'un visitant les magasins d'antiquités du Caire en se faisant toujours passer pour un riche collectionneur à l'affût d'objets provenant de la tombe de Rahotep.
Ça ne sera pas moi, les gens me connaissent trop bien.
Alors ce sera moi. Mais je n'oserais jamais y aller toute seule. Pourquoi ne pas m'aider ? Je vous en serais gré éternellement.
Bon, allez, on va aller dans la Vallée des Rois. Parce que la Vallée des Rois, c'est le titre du film de Robert Piroche en 1954 avec Eleanor Parker et Robert Taylor. Et ici, Marc Gabold est évoqué ce marché. Alors, nous sommes vraiment bien après l'Égypte antique, mais où ? Dès le 19e siècle, au 20e siècle, et sans doute encore aujourd'hui, il y a des objets qui sont mis en vente, qui sont issus de pillages. Alors aujourd'hui, on sait bien que l'Égypte a pris en main ses antiquités sans problème, mais il fut un temps où effectivement les petits paysans du coin pouvaient monnayer des choses comme ça.
Jusqu'à la fondation du service des antiquités par Auguste Mariette dans les années 1860, en fait, il suffisait d'obtenir de la part du pacha d'Égypte ce qu'on appelait un firman, une autorisation, et n'importe qui avait un petit peu de financement, allait fouiller. C'est comme ça que les consuls français et anglais, essentiellement, ont constitué plusieurs collections qui ont enrichi, d'ailleurs, le Louvre, Turin et le British Museum. Et puis, à partir de la création du service des antiquités par Mariette, il faut demander à ce service une autorisation de fouille qui est accordée et qui donne l'autorisation de récupérer la moitié des pièces découvertes en fouille. Et donc ça, c'est un attrait formidable, ce qui fait que on a beaucoup d'institutions en fait qui vont se lancer là-dedans, notamment les musées, les universités, et ça va permettre d'enrichir le Metropolitan Museum of Art, l'université de Chicago, celle de Philadelphie aux États-Unis, puis bien entendu le British Museum, l'University College en France, le Louvre essentiellement, mais également le musée des Beaux-Arts de Lyon qui va bénéficier de tout ceci. Et puis, à partir de 1922, c'est pas un hasard, mais le Français Pierre Lacot, qui est à ce moment-là directeur du service des antiquités de l'Égypte, eh bien, très à l'écoute du nouveau gouvernement égyptien, qui est très nationaliste, et décide de commencer à réformer cette loi. Il va avoir beaucoup de mal, et en fait, jusqu'aux années 1970, il y avait encore un partage des antiquités. Dans les années 1970, il était à la discrétion des Égyptiens. Donc on pouvait récupérer ce que les Égyptiens ne voulaient pas donner. Ce n'était pas plus du tout un partage 50-50. Et puis maintenant, c'est rigoureusement interdit. Tout ce qui est trouvé en Égypte appartient au gouvernement égyptien.
1922, c'est la date de la découverte de la tombe de Toutankhamon, avec ici une histoire de la législation autour de ces antiquités. Mais l'engouement pour l'Égypte dès, on le disait, 18e siècle, 19e siècle, pousse les collectionneurs à constituer des collections. Et c'est en cela qu'il y a plusieurs histoires qui s'écrivent, et c'est souvent ça hein, dans le monde de l'art et des antiquités. Des démarches officielles, Marc Gabold, vous nous le dites bien, hein, par les musées, par les institutions, il y avait des autorisations à fouiller, un partage qui était établi. Et puis à côté de ça, bah, c'est cette démarche ancienne, classique et presque évidente du pillage.
Et le pillage, il n'est pas forcément, je dirais, délibéré. C'est pas forcément. J'ai l'exemple, par exemple, dans la ville d'Armim, qui est en Haute-Égypte. Il y a un propriétaire d'une maison qui a fouillé sous sa maison. Et sous sa maison, il a trouvé une porte de l'époque ptolémaïque, de 3 mètres de haut, etc. Donc il l'a fouillée, sans en avertir les autorités. Le bureau des antiquités était à 90 mètres. Hein. Il a fouillé dans sa maison. Donc à un moment donné, il a été dénoncé, donc il a dû partir. Hein. Il s'est enfui. Et les inspecteurs ont constaté que ce gars, en creusant dans le sous-sol de sa maison, avait trouvé des vestiges antiques tout à fait considérables. On voit arriver dans les années 1980 à Munich, il y a un bijou au nom du roi Herior. C'est un roi un roi prêtre de la 21e dynastie. Ça ressemble beaucoup à un bijou funéraire. On n'a pas la tombe du roi Herior. Est-ce qu'elle a été trouvée? Est-ce que ça vient C'est un très gros bracelet en or, visiblement. Ça ressemble beaucoup à un bijou funéraire. Donc on sait qu'il y a quand même des pillages. Hein. Et très souvent, ce sont des découvertes fortuites. À Abydos, il y a eu des promoteurs immobiliers. En creusant simplement les fondations pour de nouveaux habitats, eh bien, ils sont tombés sur des antiquités. Ils ne les ont pas déclarées. Donc on les a vus apparaître sur le marché peu de temps après. Et malheureusement, effectivement, ça continue de se produire. Bon, c'est pas le cas général, mais c'est quelque chose sur lequel il faut être très très vigilant. Mais on voit à certains moments arriver sur le marché de l'art. Alors maintenant, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Le marché de l'art commence à être régulé, ce qui est tant mieux, et on demande beaucoup plus de garanties sur l'origine des objets. Ce qui amène autre chose, c'est les faux certificats qui maintenant se multiplient avec non pas des faussaires qui font de faux objets, mais des faussaires qui font de faux certificats.
Voilà, donc on reste dans le faux et dans la filouterie, avec bien sûr, on est obligé de se la poser parce qu'on l'évoque en évoquant ces antiquités égyptiennes, la place des musées dans cette histoire.
Les pyramides mettaient des passages secrets. Si on voulait rentrer, les brigands, comme ils mettaient tous leurs bijoux avec eux, que si les brigands, il n'y aurait pas eu de passage secret, les brigands, ils seraient rentrés, puis ils auraient tout volé. Alors, ils mettaient des passages. Pourquoi aussi on a pris les monuments d'Égypte? Parce qu'il y a des musées en Égypte. Alors, ils auraient dû les prendre, en vrai. Ils auraient dû être en Égypte. Pourquoi c'est en France?
Nous, si on nous prenait, la Tour Eiffel, et qu'on l'amenait en Égypte, nous aussi, on serait pas très contents.
Ah non, on ne serait pas très content. En 1983, des enfants qui étaient interrogés, c'était Barbara et Maxence en l'occurrence. Marc Gabold, bien sûr, faut rappeler combien les objets présents dans les musées sont le fruit d'une histoire et que aujourd'hui l'attention est vraiment portée sur leurs origines. Mais il y a plusieurs histoires qui s'écrivent. L'histoire de l'objet, qui l'a fabriqué, d'où il vient, et puis après l'histoire, comment il est arrivé là. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus clair. Mais c'est des questions qu'on se pose sans cesse, bien sûr.
Oui, il faut essayer de tracer au mieux les objets, reconstituer leur histoire. Ça peut nous donner des indications de pourquoi ils ont été faits, par qui ils ont été faits, où est-ce qu'ils ont été faits. Et ça, c'est indispensable, aussi bien à l'archéologue qu'à l'historien. L'historien, il a besoin des matériaux que l'archéologue produit. Donc, il faut essayer de reconstituer l'histoire des objets. Et bon, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Les Égyptiens, je me rappelle Zahi Hawass, réclamant le retour, mais surtout d'œuvres emblématiques. Hein. La pierre de Rosette, qui est maintenant au British Museum, trouvé par le capitaine Bouchard pendant l'expédition d'Égypte. Bon, il pense que c'est un trésor national.
Et utilisé par Champollion hein, pour décrypter les hiéroglyphes. Alors donc, les Égyptiens disent que c'est un trésor national.
Voilà, c'est un trésor national. La tête de Néfertiti, qui est sortie à Berlin, qui est sortie grâce à l'aval d'un inspecteur français, Gustave Lefebvre. Bon, on lui a peut-être pas montré la qualité de l'objet de manière évidente. Je crois qu'elle était plus ou moins à l'envers dans une caisse quand on lui a demandé de faire le partage des antiquités. Donc, elle est partie à Berlin. Les Égyptiens réclament le zodiaque de Dendera, qui sera très difficile à remettre en place si un jour il quitte le musée du Louvre pour l'Égypte. Il réclame également aux Américains un objet qui vient d'un partage tout à fait légal, qui est le buste du prince Ankaf, qui est le fils de Khéops. Eh bien, voilà. Donc, heureusement, bon, pour l'instant, ce sont des demandes limitées. On peut pas refaire l'histoire, c'est-à-dire que vous savez, à un moment donné, Rome comptait plus d'obélisques que toute l'Égypte entière. Les objets ramenés par les empereurs romains, il faut se rappeler que l'Égypte faisait partie de l'Empire romain. Hein. Ils ont déplacé d'un coin de l'Empire à un autre coin de l'Empire des monuments considérables. Faut-il les restituer ? Est-ce que l'obélisque de Saint-Jean de Latran, qui vient de Karnak, on sait exactement d'où il vient à Karnak, faudrait-il le ramener à Karnak ? Il porte son histoire à l'endroit où il est. Et une histoire qui est complétée même à la Renaissance, puisqu'on a on a le témoignage de la manière dont il a été recomposé à ce moment-là. Donc, je crois qu'il faut être très 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 prudent dans cette politique de restitution et ne pas s'emballer trop vite. Hein. D'abord, il faut attendre que les autorités locales réclament l'objet. Hein. Si les Égyptiens un jour viennent à demander l'obélisque, on se posera peut-être la question, hein. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut savoir que l'obélisque a été donné par Mehmet Ali à la France. En fait, il l'a donné au roi de France. Mais on lui a expliqué que c'était mieux de le donner à la France qu'au roi de France, parce que les rois de France, ça peut changer. Et contre le déchiffrement des hiéroglyphes, et aussi parce que Mehmet Ali voulait rénover son armée, son système de santé, et il a fait appel à des Français. Hein.
Et là, on est au 19e siècle avec la réflexion du philosophe Souleymane Bachir Diagne. Souleymane Bachir Diagne qui est venu dans le cours de l'histoire. Hein, c'est une émission à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Pensée l'universelle où, je résume sa pensée, mais si tous les musées du monde ne devaient refléter que la production du pays, ce serait bien triste. Et penser l'universelle, c'est aussi favoriser tous ces échanges. Donc voilà, on va dire qu'il y a des échanges. Ce qu'il faudrait, c'est que dans les musées égyptiens, il y ait peut-être aussi tant de représentations d'œuvres venues de l'ailleurs. Mais ici, par l'exploration de ce monde-là, la réflexion autour du pillage, il y a l'éblouissement du musée et puis une autre émotion, hein, c'est celle qui évoque la manière dont étaient gardés ces tombeaux et pourquoi pas des malédictions.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Un labyrinthe, hein, pour cacher le chemin du tombeau.
L'entrée est par ici, monseigneur. Et là, c'est le labyrinthe qui mène au secret.
Nous avons imaginé un tombeau inaccessible.
Comme le dernier tombeau où un tel labyrinthe a été utilisé. Mon ancêtre Serati était protégé par le même genre de labyrinthe. Tu sais de quoi il a été victime. Et ceci?
C'est tout différent, monseigneur. Ça commence ici.
C'est différent, quoi? J'ai ramené un trésor immense en Égypte, et ce trésor a été pris dans un tombeau dont la crypte avait été scellée 3 jours auparavant. Oh, regarde ce qu'on nous offre ici, Aymar. Je crois retrouver une ancienne connaissance, un faux tunnel et une fausse crypte pour dissimuler les vrais. Ça n'empêcherait même pas le vent d'entrer. Sont-ils tous comme ça? Quelle raison voyez-vous de bâtir une pyramide pour abriter une tombe, si cette tombe doit être violée un jour? Il vaudrait mieux déposer ce trésor sur le sable. De cette façon, au moins, les voleurs ne dérangeraient pas mon corps. Allez-vous-en tous! C'est de ça que j'avais peur, Emma.
J'en suis désolé, seigneur.
Chacun de ces plans a été utilisé pour les sépultures royales, et pas une n'a échappé aux profanateurs sans scrupules.
Il y a beaucoup de profanateurs et peu de pharaons.
Ah bah oui, c'est ça le problème. Ici, c'est le film La Terre des Pharaons, un film de War Hawks en 1955. Nous étions avec Khéops et ses architectes. Khéops, ce sont donc les pyramides. Donc, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. Hein. C'est très vieux. Hein.
Oui, c'est bien avant les pillages de la vallée des rois que l'on a évoqué. Mais dès cette époque, on sait que les tombeaux ont été pillés. Hein.
Mais il y a des pièges prévus, il y a des choses comme ça.
Non, on a des systèmes de herse, des systèmes de labyrinthe. Oui, c'est assez amusant. Au Moyen Empire, le roi Amenemhat III à Dachour, il a mis sa chambre funéraire pas du tout là où on l'attend, très 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 latéralement. Sur le bord de la pyramide, et Jacques de Morgan, qui a dû fouiller, a creusé des tas de tunnels sous la pyramide pour essayer de la trouver. Il a mis 2 mois et demi et creusé à peu près une dizaine de tunnels avant de trouver la chambre funéraire d'Amenemhat III. Donc, effectivement, les rois égyptiens ont essayé de protéger leur tombeau. Alors, avec des herses de granit en les multipliant, en masquant l'entrée de caveaux sous des escaliers, par exemple. Monsieur Zivi a trouvé la tombe du vizir Aperel à Saqqara, et en fait, le vrai caveau de Aperel se trouvait sous un escalier tout au fond de la tombe. Il a fallu démonter l'escalier pour aller découvrir ce qui restait du mobilier funéraire d'Aperel. Donc, il y a une volonté, effectivement, de dissimuler, d'empêcher les voleurs d'entrer. Le meilleur moyen, c'est encore de dissimuler l'entrée de la tombe. Et c'est comme ça que la tombe de Toutankhamon a été préservée. En fait, elle a bénéficié d'une chance extraordinaire, c'est-à-dire que elle est de la 18e dynastie, mais à la 19e dynastie, il y a eu plusieurs tombes royales creusées autour. Et quand on creuse une tombe, on fait des déblais. Et les déblais ont été mis par-dessus la tombe. Et puis à la 20e dynastie, d'autres déblais. Une tombe qui est juste au-dessus de la tombe de Toutankhamon a encore exaucé le niveau, ce qui fait que par rapport au sol de la 20e dynastie, la tombe de Toutankhamon se trouverait 5 mètres plus bas. Et ça l'a parfaitement scellé et protégé.
Et puis, il y a la malédiction, parce que, bien sûr, il y a ce fantasme de la malédiction. On l'entend bien à partir, d'ailleurs, de la découverte de la tombe de Toutankhamon. La presse, la littérature s'en est emparée. Mais la malédiction, c'est concret, au sens où il y a des éléments d'écriture qui disent « Attention, vous n'allez pas me déranger, parce que sinon, malédiction ».
On a des malédictions qui sont inscrites sur des tombes, dans la tombe de Pétessi, qui date de l'Ancien Empire. On voue les profanateurs au lion, au crocodile, et je ne me rappelle plus le troisième animal, enfin les animaux les plus dangereux qui existent pour les Égyptiens. Voilà, mais ça n'a rien de « la mort frappera de ses ailes, quiconque troublera le tombeau du pharaon ». Ça, je crois que c'est... Je me demande, c'est pas Maria Corelli qui était une écrivaine et journaliste et qui avait commencé à parler de la malédiction de Toutankhamon, alors que Carnarvon, le premier mort de la malédiction, était tout simplement malade. Et elle évoquait des poisons antiques qui auraient pu frapper les fouilleurs du tombeau.
Avec ce panorama vous venez de nous offrir, Marc Gabol. Mais merci vivement à vous parce que nous étions réellement en Égypte, au plus près de ces tombes, mais par la grande porte. Hein, pas eu besoin de creuser et de piller. Oh, je renvoie à vos ouvrages, mais il y a la Caneton, hein, du mystère à la lumière, découverte Gallimard, et puis les autres, on les retrouve sur le site franceculture.fr, le cours de l'histoire. Merci vraiment à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
C'est moi qui vous remercie.
Prochain épisode, qu'ils sont pilleurs ces Romains. Le butin en triomphe, mais les Romains aussi ont été pillés, et notamment par les Gaulois.
Il faut imaginer Rome ville ouverte. Les Romains sont battus, ils sont débandés. Les Gaulois sont d'ailleurs surpris. Hein. Ils arrivent devant cette ville. C'est une petite cité du Latium, ce n'est pas encore la l'Urbs que l'on connaîtra quelques siècles plus tard.
Voilà, Luc Barry qui s'exprimait sur la prise de Rome par les Gaulois. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, à la technique Jean-Guilain Meige. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jacques Copet, Solène Roy et Mayouen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour son aide dans la recherche des archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster, cette émission et toutes les archives sur franceculture.fr et l'appli Radio France.